Radio Okapi.
Onésime Moukandila pour le journal.
Okapi.
Bienvenue mesdames et messieurs dans votre édition du journal de la mi-journée. En voici les titres. Révision de notre chef rebelle Rayam Toboki à Chabunda au sud Kivu. Le général autoproclamé Kabe Sangai est arrivé hier accompagné de ses éléments munis de leur attirail militaire. Deux personnes ont été tuées, oui blessées dans un accident de circulation aujourd'hui à Lubumbashi. Une camionnette est entrée en collision avec un gros camion. La police a saisi les véhicules en attendant l'issue de l'enquête. Quelques habitants de Bouta ont protesté ce matin contre la suspension de l'ordonnateur délégué des finances et du chef de division unique de la province du Bas-Ouélé par le gouverneur de l'ex-province orientale. Une marche organisée par la nouvelle société civile locale. Voilà tout mesdames et messieurs pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour. Nous apprenons qu'un autre seigneur de guerre, Rayam Toboki, vient de se rendre dans le territoire de Chabunda au sud Kivu. Il s'agit du général autoproclamé Kabe Sanga. Il est arrivé à Chabunda centre depuis hier, accompagné d'une vingtaine de ses éléments munis de ses militaires en provenance des Chumi, en groupement de Bamuguba sud. C'est à une trentaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Chabunda. Le point avec Delina Muto.
Ce général autoproclamé Kabe Sanga, qui abandonne les armes, faisait partie du groupe armé Rayam Toboki Sisawa. Il travaillait selon nos sources sur place aux côtés de Cynthia, qui se trouve déjà à Goma, pour le processus de réintégration socio-économique. La reddition de Kabe intervient après une vague de reddition qui s'observe depuis plus d'une semaine à Chabunda. L'administrateur du territoire adjoint confirme cette nouvelle et note que ce seigneur des guerres est venu à Chabunda avec 28 autres de ses éléments, avec comme effet de guerre des mags, 60 cartouches, 19 armes AK-47, 3 lance-roquettes, 3 bombes et 24 chargeurs. À Chabunda, ces ex-combattants attendent leur transfert à Goma grâce à l'appui de la MONUSCO qui a disponibilisé des hélicoptères et qui organise plusieurs rotations en faveur des miliciens qui s'y rendent. Jeudi dernier, 4 autres ont été transférés à Goma. L'autorité locale demande en outre à tous les autres seigneurs de guerre comme Kimba qui sont toujours sur l'axe Kazozola, Dona, Akabazimia, Nyambembe et Dunda d'emboîter le pas de leur prédécesseurs pour permettre la reconstruction de Chabunda. Bukavu, Delphine Amuto, Radio Okapi.
Des avancées significatives sont enregistrées dans la résolution des conflits Pygmé-Louba dans le Tanganyika. Le conseil de la délégation conduite par la MONUSCO, les autorités politico-militaires et la société civile au village Mukebo dans le territoire de Manono jeudi dernier. Les deux acteurs clés dans ce conflit ont enterré l'âge de guerre. Amouri Aleka revient de la zone.
Les résultats du premier contact de la commission des résolutions des conflits installée la semaine dernière à Mukebo ont abouti à l'acceptation des négociations entre les deux acteurs clés au conflit intercommunautaire dans le secteur de Nyemba Mukebo. Ces acteurs ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Il s'agit de Sakivi du côté Pygmé.
Moi Sakivi, je suis prêt à clôturer avec cette guerre et je suis prêt à quitter la brousse.
Et de Sakade côté Louba.
Je suis le commandant d'autodéfense. Dans le groupement Senganchimbu. Je m'appelle Sakade. Je veux la paix pour faire éduquer nos enfants. Des candidats à l'examen d'État l'année dernière ont raté suite à la guerre. Je veux la paix.
Ces négociations, qui sont menées sous la facilitation de la MONUSCO, des autorités politico-militaires et de la société civile, ont permis la mise à terre de l'arbre de paix pour la première partie au village Mukebo et dans quelques jours au village Mbayo avec le leader pygmé Nyumbaisha. Ce dernier a émis des conditions avant sa reddition à la présence à la table de négociation de tous les chefs de secteur à problème. Il s'agit de chefs traditionnels Kabeke, Senganchimbu et Sangé. Déjà la MONUSCO a rendu disponible le moyen logistique. Des retours de Mukebo depuis Kalemie, Amouri Aleka, Radio Kapi.
Parlons à présent de ce début d'instruction hier à Mbandaka du dossier du dénommé Ndioku, réputé bandit de grand chemin. Il a été arrêté en août dernier. Il est un des auteurs présumés de l'insécurité qui a prévalu dans la ville en cette période. Le tribunal de grande instance le poursuit pour association des malfaiteurs et vol qualifié. Éclairage dans ce reportage de Paul Richard Malinguela.
Il y a 3 semaines depuis que le tribunal de grande instance de Mbandaka a démarré le procès de Guy Gongela Esokwa alias Ndioku. Et par 2 fois le procès a été reporté puisque le juge n'était pas régulièrement saisi du dossier. Après quoi, le procès a commencé hier vendredi. L'audience publique a été consacrée à l'instruction avec la vérification des identités des prévenus, la vérification de l'objet de l'accusation. Ensuite, le prévenu a donné sa défense et le ministère public les preuves pour asseoir son accusation. Il faut noter que pour ce procès, Njoku et ses complices sont poursuivis pour association des malfaiteurs et vol qualifié. Il s'agit plutôt d'un vol qu'ils avaient opéré dans la nuit du 13 au 14 juin dernier chez un officier de la police nationale, ce qui a valu le mandat d'amener lancé contre lui par le procureur de la République. Le procès va reprendre à l'audience publique du 16 octobre prochain, toujours au palais de la justice de Mbandaka. Toutefois, le procès ne connaît pas encore d'engouement, car plusieurs Mbandakais qui citaient Njoku comme cerveau moteur de l'insécurité des juillet et août dernier dans la ville, disent attendre plutôt l'ouverture d'un procès où Njoku et sa bande répondraient de leurs actes. Mbandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Deux morts et 8 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu aujourd'hui matin à Lubumbashi. Une camionnette en provenance de Bukama, territoire à 500 km de Lubumbashi, est entrée en collision avec un gros camion. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Sendwe pour des soins. Pour la police, les deux véhicules sont saisis et gardés à la fourrière en attendant l'issue des enquêtes. Récit des faits avec Nelly Kabena.
L'accident est survenu au quartier industriel vers 5h du matin. Pour une des victimes interrogées, la faute est attribuée au chauffeur du camion citerne. Il roulait à vive allure, il a raté un virage et rentré dans la camionnette. Celle-ci a été projetée avant de se renverser. Deux passagers de la camionnette sont morts et 8 autres grièvement blessés. La police confirme le bilan de l'accident, mais elle émet les doutes quant à la cause de ce drame. Par ailleurs, elle affirme que les deux chauffeurs ont pris la fuite, mais leurs véhicules sont saisis. Une autre victime, les deux pieds cassés et se tordant de douleur, nous dit qu'elle ne comprend pas qu'un tel accident se produise en plein centre-ville alors qu'elles ont bravé 700 km de route en mauvais état. La camionnette était remplie de sacs et bidons vides. Les voyageurs sont notamment des commerçants qui venaient s'approvisionner à Lubumbashi. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Nous vous le disions dans le sommaire, des centaines de personnes ont marché aujourd'hui matin dans la cité de Bouta, territoire au nord de Kisangani. Nous sommes dans la province du Bazouélé. Une marche organisée par la nouvelle société civile locale pour protester contre la suspension de l'ordonnateur délégué des finances et du chef des divisions uniques de la dite province par le gouverneur de l'ex-province orientale. Le gouvernement provincial de cette ancienne province motive cette suspension par le refus de ces deux autorités de transférer à Kisangani les frais de fonctionnement que le gouvernement central a envoyés à la province du Bazouélé. Anselme Assois nous en dit long.
Des jeunes et adultes, des associations féminines, des marchands, des agents des services étatiques, etc. ont pris part à cette marche. Pour le président de cette société civile, le Bazouélé est déjà érigé en province. Le gouverneur de l'ex-Oriental n'a plus la même mise sur cette entité. Joël Wami.
99 millions, 64 290 là, ne peut pas rentrer à Kisangani. Tout cet argent-là, le fait de fonctionnement pour le gouvernement du Bazouélé reste dans le Bazouélé, au développement du Bazouélé. L'idée, nous exigeons que l'ordonnateur délégué du Bazouélé B, dans le chef de division unique, soit réhabilité le plus tôt possible.
Pour le vice-gouverneur de l'ex-province orientale, étant donné que cette province n'a pas encore un gouvernement propre à elle, cet argent doit être géré par le gouvernement de l'ex-orientale qui expédie les affaires courantes. Le refus de transférer cet argent constitue une insubordination. Pascal Mombi.
Il y a eu refus par l'ordonnateur délégué de retourner cet argent. En dépit de l'ordre lui intimé par l'OD provincial, devant ce refus, le gouverneur de province s'est vu dans l'obligation de suspendre l'OD délégué pour insubordination.
Notez que les deux autorités suspendues sont convoquées à Kisangani pour répondre de leur refus de transférer ses frais de fonctionnement. Kisangani, enseigne Maswa, Radio Kapi.
Pour clore complètement ce journal, la CENI a mis en place hier à Kinshasa un groupe de coordination et de suivi des programmes d'éducation civique et observation électorale et du ciel. Elle l'a fait en collaboration avec la société civile, les partenaires techniques et financiers du processus électoral. D'après Gustave Omba, membre de l'Assemblée plénière de la CENI, cette coordination constitue un cadre tripartite permanent de concertation de haut niveau dont la mission est de valider les supports de sensibilisation électorale. Elle devra, dit-il, faire des lobbying pour un financement responsable des organisations de la société civile. Cette coordination est chapeautée par Gérard Bissambo. Il explique au micro d'Askin Zibertairo l'importance de ce cadre de concertation.
Nous étions en face de tous les partenaires qui sont impliqués dans l'appui du processus électoral. Question de demander aux partenaires à se prononcer dans quelle mesure ils peuvent apporter d'abord un appui moral à l'édiciel, un appui technique et éventuellement un appui financier pour celles des activités qui rentrent dans leur ligne d'appui. C'est ce que nous avons fait. Et les grandes options qu'on a eu à dégager de cette rencontre, c'est d'abord un de rendre permanent ce cadre tripartite de manière à ce que régulièrement nous puissions évaluer en fait le déroulement du processus, que nous puissions évaluer et suivre les activités d'éducation civique et observation électorale réalisées par les acteurs de la société civile sur terrain, ce qui va s'avérer que nous puissions avoir une cartographie de tout cela de manière à donner de l'information aux partenaires, mais en même temps aussi évaluer les approches et les stratégies d'appui des activités de la société civile.
Sachez que parmi les partenaires techniques et financiers figurent entre autres l'Union Européenne, l'USAID, NDI, Centre Cartel, DFID, MONUSCO. Voilà mesdames et messieurs qui mettent un terme à cette édition nouvelle mise en ordre par Mimi Kindo, Suzanne Zobo l'a coordonnée sous la supervision de Julien Niamouini. Ensemble nous vous disons merci de l'avoir suivi. Okapi, Okapi, Okapi.